Bonjour tout le monde, je suis Sabine Padeloup et vous écoutez le podcast du Bonheur des Arts, la plateforme de cours en ligne en histoire de l'art et du luxe. Toutes les semaines, je vous parle d'histoire de l'art et plus particulièrement de son rôle dans la société. Ce podcast est issu d'une réflexion sur le confinement en lien avec notre amour pour la culture. Nous remontons ainsi le temps dans le but de comprendre l'évolution historique de cet attachement pour l'art. Pour cela, je suis partie de l'introduction de l'ouvrage de Gilles Lipovetsky et de Jean Seroy intitulé « L'esthétisation du monde, vivre à l'âge du capitalisme artiste ». Nous avons vu le premier âge, l'artialisation rituelle, puis le deuxième âge, l'esthétisation aristocratique. Il est temps de nous focaliser sur le troisième âge, l'esthétisation moderne du monde. Bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Appel de l'art. Petit résumé des âges précédents. Le premier âge, nommé artialisation rituelle, correspond à l'ère des rites depuis l'aube de l'humanité jusqu'au Moyen-Âge. Les œuvres de ce premier âge sont collectives et jouent pour la plupart un rôle de médiation entre la divinité, ou l'ancêtre, et le peuple. Ces images sont censées être habitées par le divin. À la fin du Moyen-Âge, l'artisan évolue et le concept d'artiste apparaît. En conséquence, le concept d'œuvre d'art, pouvant être aussi objet de délectation esthétique, s'affirme durant les temps modernes, c'est-à-dire du début de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. C'est le deuxième âge, celui de l'esthétisation aristocratique. Cette production artistique est l'apanage des princes qui usent de véritables stratégies pour avoir les meilleurs artistes à leur cour. Les souverains invitent les artistes à leur cour pour s'affirmer socialement et surtout mettre en scène leur pouvoir. L'homme devient ainsi le centre des attentions. Et nous allons voir que peu à peu, cette attention va se déplacer vers l'objet. En effet, la sphère artistique devient plus complexe et se diversifie au cours des 18e et 19e siècles. De nouveau, les choses n'apparaissent pas soudainement, mais elles sont le fruit d'une évolution. Vous vous doutez bien que nous ne sommes pas devenus adeptes de la consommation du jour au lendemain. Aussi, la société de consommation commence à s'épanouir au cours des 18e et 19e siècles avant de prendre cette forme incroyable au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais retournons à notre sphère artistique des 18e et 19e siècles, et surtout celle du 19e siècle. Avant la Révolution française, et encore plus après 1789, la clientèle aristocratique se diversifie. L'art avec un grand A n'est plus uniquement affaire de l'aristocratie. Les nobles ne sont plus la clientèle exclusive des artistes, tout comme l'Église. Les artistes se détachent des pouvoirs religieux et aristocratiques. Nous sommes entrés dans l'âge de l'esthétisation moderne du monde. Les artistes sont donc désormais face à une nouvelle clientèle, notamment composée de la bourgeoisie d'affaires. Celle-ci est d'ailleurs très friande de portraits. De la même manière que les princes de l'âge précédent, tout est question d'affirmation sociale et de mise en scène de soi. La haute bourgeoisie imite l'aristocratie. Du coup, les artistes les plus en vogue à l'époque deviennent des portraitistes aguerris dans le but de satisfaire l'ego de leurs clients. Le choix des artistes par cette clientèle n'est pas complexe. On choisit ceux qui plaisent et surtout ceux qui réussissent. Et pour cela, il y a deux événements incontournables qui font et défont les artistes au XIXe siècle. Le Salon et le Prix de Rome. Ces deux événements artistiques deviennent des instances de consécration pour les créateurs. Exposer au Salon permet aux artistes d'être vus et d'être reconnus par le public. Tout le monde ne peut pas exposer au Salon. Il y a un jury et ses membres doivent choisir un nombre d'œuvres qu'ils estiment pouvoir incarner l'art officiel français. Ces œuvres seront vues par des milliers et des milliers de personnes venant parfois d'étrangers pour l'occasion. Leur choix doit donc être éclairé. Les exposants doivent respecter des conventions artistiques prônées par l'Académie. Il faut aussi ne pas oublier les œuvres des amis et celles des élèves des amis. Bref, c'est très compliqué et autant vous dire que les peintres de la modernité tels que Manet et Van Gogh sont écartés de ces manifestations officielles. De la même manière, on célèbre les artistes ayant remporté le prix de Rome et qui ont pu devenir pensionnaires de la prestigieuse Académie française de Rome située à la Villa Médicis. De nombreux artistes célèbres au XIXe sont aujourd'hui complètement inconnus au bataillon. Si je vous dis Jean-Pierre Granger, Félix Boisselier, Alexandre Cabanel, Eugène Roger, vous me direz « Ouais, c'est qui tout ça ?» Ce sont les stars de l'époque. Nous sommes entrés dans une ère où l'art devient commercial et où les artistes connaissent un succès immédiat, mais temporaire, si toutefois ils respectent les règles. S'ils ne les respectent pas, ils sont libres de créer, mais ils risquent de souffrir d'importantes difficultés financières. Il est incroyable de se dire que les grands noms d'hier sont aujourd'hui tombés dans le purgatoire de l'art, où sont connus uniquement des spécialistes qui vous diraient « Mais évidemment, je sais qui est Eugène Roger !» Mais ce n'est pas ça que le public et l'histoire de l'art ont préféré retenir. Aujourd'hui, nous avons en tête des noms comme Manet, Monet, Van Gogh, Courbet, Matisse, Picasso, Duchamp, etc. Et tous les artistes que j'ai cités étaient très doués. Ils avaient tous une pratique artistique rigoureuse pour ceux exposés au salon, ou une vision novatrice pour ceux qui n'étaient pas exposés au salon. La reconnaissance des artistes à une époque ne correspond pas aux mêmes critères que ceux actuellement en vogue. L'art a des valeurs propres, mais il est devenu au cours des 19e et 20e siècles un système autonome avec des instances de sélection et de consécration, telles que les académies, les musées, les revues, sans oublier les marchands et les collectionneurs. Car oui, l'art s'affirme comme objet, et comme objet de collection. Les artistes ont su s'émanciper par rapport aux époques précédentes. Ils peuvent être autodidactes. Certains parviennent même à exposer au salon officiel alors que leur art ne fait pas partie de l'art officiel. Et en même temps, les artistes sont devenus dépendants des lois du marché qui émergent. Le marché de l'art s'affirme à la fin du XIXe siècle. Les œuvres en tant que production matérielle d'un artiste intéressent désormais beaucoup les collectionneurs. Qu'il s'agisse de coups de foudre pour un style, de soutien à des créateurs en difficulté financière ou d'investissement sur le long terme, les collectionneurs et les galeristes deviennent les nouveaux acteurs incontournables de la sphère artistique. De l'art pour les princes, nous sommes passés à l'art pour l'art. Et cet art pour l'art n'est pas l'apanage de la seule bourgeoisie d'affaires. Au cours des 19e et 20e siècles, l'art s'adresse désormais à tous. Nous continuerons cette exploration des 19e et 20e siècles dans le prochain épisode, avec entre autres le développement du nombre des œuvres grâce à l'industrie et l'évolution de la perception esthétique de l'art. Je vous remercie d'avoir suivi ce 4e épisode. Si vous souhaitez m'aider, partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver les actualités du Bonheur des Arts sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et sur le site internet bonheurdesarts.com. Prenez soin de vous et à samedi prochain pour le 5e épisode de l'Appel de l'art.